Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le silence, avez-vous remarqué qu'il est assez paradoxal? Il force le respect autant qu'il inquiète, il laisse la place à l'écho des choses autant qu'il est plein de sous-entendus. L'on peut se recueillir dans le silence ou bien se murer dedans. Le silence est peut-être le fil rouge des films de ce jour, silence choisi comme un sursaut de la conscience et une résistance à la tyrannie, silence de la mort qui distille son poison dans un cœur d'une famille frappée par le deuil, silence des disciples, des apôtres, de la foule même, bien souvent devant l'enseignement de Jésus. Le grand écran de Vivante Église, c'est donc le rendez-vous de ce matin, rendez-vous prisé par les auditeurs, si j'ai bien compris, donc on s'en réjouit et on essaiera de faire aussi bien, voire mieux l'année prochaine, si nos invités acceptent de revenir. Nos invités aujourd'hui, ce sont nos deux invités habituels, Paul Dima, donc co-responsable de Ciné Parole, Ciné Club en partenariat avec le cinéma L'ABC à Toulouse et animateur de retraite cinéma, entre autres pour les Côteaux-Pays. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien devant le micro. Ça n'a pas changé. Et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, le monsieur cinéma de Radio Présence. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Voilà, qui est en train de se faire appeler The Voice à la radio. Jusque-là, c'était un frère Carme, mais comme le frère Carme a arrêté son émission, Louis-Marie est détrôné. Alors, nous allons parler de trois films aujourd'hui. La Révolution silencieuse, film de Lars Krom. Nous allons parler, donc ça c'est le film, on va dire, à l'affiche, qui est donné au cinéma L'ABC, donc le 5 juin prochain, dans le cadre du Ciné-Parole. Et puis les deux autres films, c'est La Chambre du Fils de Nanni Moretti, c'est donc le chef-d'œuvre humaniste de ce mois, et L'Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini. On commence avec La Révolution silencieuse, comme à chaque fois, le mieux c'est de se lancer dans l'atmosphère du film. Alors là, bon courage aux auditeurs, puisque nous n'avons pas trouvé de version française, donc ça sera une bande-annonce en allemand, on espère qu'il y en a pas mal qui parlent allemand, bref c'est surtout pour nous mettre dans l'ambiance, on va écouter 30-40 secondes, et puis après on va parler de ce film.
Für Frieden und Völkerfreundschaft. Seid bereit!
Auf die Freiheit!
Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen.
Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute in Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen.
Spinnst du jetzt völlig cool?
Ich will wissen, was hier gespielt wird.
Was ist hier los?
Ich will wissen, was hier los ist!
Voilà la bande-annonce de La Révolution silencieuse. Donc je dis quelle est l'intrigue et puis je vous laisse commenter. C'est donc une classe de lycéens en Allemagne de l'Est en 1956 qui choisit de poser un acte de résistance et ils font ça comme un seul homme, de tenir 2 minutes en silence au début de la classe. Et ce qui est au début enfin, un acte de bravoure devient une affaire d'État et va considérablement transformer leur vie. C'est une histoire vraie qui est portée au cinéma donc, par ce réalisateur Lars Krom. Louis-Marie, comme peut-être presque à chaque fois, qu'est-ce que vous diriez pour compléter la présentation du film avant qu'on détaille ?
Au départ même, je pense que ces jeunes gens, c'est même pas un acte de résistance, c'est même peut-être une blague. Une blague de gamin qui va prendre une proportion qu'il ne soupçonnait pas. Parce qu'au départ, on suit en particulier de jeunes gens, hein, c'est une classe de terminale, ils ont 17 ans, Théo et Kurt, et un moment qu'ils prétextent d'aller voir la tombe du grand-père, si je me souviens bien, ils passent à l'ouest. Alors à l'époque, c'est en 56, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas encore le mur et pas encore le rideau de fer, donc c'était plus facile quand on était à l'est de passer à l'ouest, à condition de revenir évidemment. Ils vont là-bas et en fait ils en profitent pour entrer dans un cinéma en douce, et dans ce cinéma en douce où ils voulaient aller voir un film hollywoodien, quelque chose de clinquant, ils tombent sur les actualités. Et c'est aux actualités qu'ils voient ce qui se passe en Hongrie et qu'ils ont cette idée.
L'insurrection de Budapest, voilà.
Exactement.
On dit que c'est entre autres provoqué parce qu'un joueur de foot célèbre, c'est ça,
oui,
aurait été victime de la répression, un certain Verenc
Puskás.
Information qui s'est révélée après fausse. Donc c'est quoi? C'est une boutade qui finit en affaire d'État, c'est ça, ou c'est...
En tout cas, par rapport à ce qu'on montre dans le film, c'est juste ce qu'il découvre. C'est-à-dire que de façon techniquement, au niveau de la prise de vue, on voit ce qu'il y a sur l'écran pour qu'on comprenne ce qu'ils sont en train de regarder, mais en fait c'est surtout leur visage qui intéresse le réalisateur, et on voit le visage de des deux protagonistes changer. Ils étaient venus pour s'amuser et ils repartent avec quelque chose de changé dans leur conscience. Alors parler de conscience politique, c'est un peu exagéré, mais ils sont des adolescents qui cheminent.
Alors peut-être quelques mots de contextualisation aussi quant à l'histoire, enfin la tranche d'histoire que ça évoque. Donc évidemment c'est là pour parler de l'Allemagne de l'Est et du régime communiste, mais l'insurrection de Budapest c'était donc en 1956. Révolte nationale et spontanée, des étudiants manifestent par milliers, le bâtiment de la radio nationale est pris d'assaut et l'armée refuse en fait de réprimer la foule. Il y a pendant un temps du coup un certain flottement, voire Moscou donne quelques signes d'assouplissement, et puis le 4 novembre 1956 l'armée est envoyée et la répression terrible, j'ai noté plus de 2500 victimes, si c'est pas davantage. Paul Dima, qu'est-ce que vous rajouteriez quant à l'intrigue, puisqu'on a juste écouté un court extrait?
Alors, ces jeunes lycéens qui sont cloisonnés dans l'Allemagne de l'Est découvrent à l'Ouest des images du monde qu'ils n'ont jamais vues. Et ils réalisent qu'il y a des vérités différentes selon où on est placé. Et en revenant à l'Est, ils disent, on va faire 2 minutes de silence à cause de la mort de notre héros qui est en même temps champion de foot. Et alors, ils font comme un pari de potage, quoi. Hein, ils tiennent les 2 minutes de silence. Et puis tout d'un coup, on voit toute la machine qui se met en marche. C'est un prof d'histoire, et puis ça remonte au proviseur du lycée, on va dire ces mots-là, et puis ça remonte au ministre de l'Éducation nationale qui envoie, on voit toute la lourdeur et toute la machine politique qui se met en marche, parce que derrière cette action-là de tenir le silence pendant 2 minutes, c'est signe que la machine est en train de se gripper et qu'il va falloir étouffer dans l'œuf ce début de révolution silencieuse, pour reprendre le titre du film.
Donc il découvre petit à petit, enfin ça devient quelque part un acte politique et leur corps défendant,
c'est
au
ça.
Fur et à mesure.
C'est à leur surprise, mais en même temps, ils découvrent à quoi ils peuvent s'engager et est-ce qu'ils vont continuer ou pas. Il y a des dissensions entre eux.
Parce que... au départ, ils ne remettent même pas en cause l'idéal socialiste.
Oh non, pas du tout.
C'est même pas ça. Hein. Ils veulent s'affirmer et pouvoir faire défendre leur liberté face aux adultes. C'est pas plus compliqué que ça.
Alors,
au départ.
Est-ce un bon film? Les auditeurs ont compris que je ne l'ai pas vu, donc je vous laisse nous mettre en bouche. J'ai lu un certain nombre de critiques, en tout cas. Donc, le journal du dimanche, défendu par une troupe de comédiens épatants, tendu comme un arc grâce à un scénario au cordeau, le film se révèle passionnant dans sa façon de restituer tout un climat social et de faire observer un moment d'histoire. Télérama plus mitigé, la mise en scène ici reste convenue, mais le scénario illustre brillamment des thèmes passionnants, le sacrifice, la trahison. Les rebondissements sont inattendus, bref, plus mitigés. Alors, le Figaro, Lars Krohm met en scène sans grand génie ce cercle des poètes disparus germaniques, mais il dépeint très finement un microcosme qui symbolise tout un pays. Vous avez trouvé que c'était un bon film, j'imagine, c'est pour ça que vous l'avez sélectionné. Alors allez-y, défendez-le.
Oui, Marie. C'est un bon film. Effectivement, il y a quelque chose d'un peu académique dans la mise en scène, dans la reconstitution de l'époque.
Le cercle des poètes disparus.
On ne peut pas ne pas le reconnaître. Parler du cercle des poètes disparus, c'est pour trouver une analogie, parce qu'on aime bien, mettre les films dans des cases, c'est plus facile, comme ça on dit, ah, et puis c'est plus facile à vendre aussi. Mmh. Allez voir ce film, c'est le cercle des poètes disparus, c'est pas ça. Mmh. C'est pas ça du tout, c'est pas le même esprit, c'est une autre démarche de la part de ces jeunes gens.
Le cercle des poètes disparus, c'était une agrégation de jeunes fascinés par leurs enseignants, qui voulaient les mettre un peu hors du circuit bien balisé. Là, c'est tout l'inverse. Mmh. C'est des jeunes qui prennent la liberté de poser un acte au début un peu de façon bravache, mais après de l'assumer et d'en assumer les conséquences.
Bref, allez voir, donc film qui est une histoire vraie, tiré d'un roman d'un certain Dietrich Garska, j'espère que je prononce correctement, homme qui a fui, je raconte la fin, bref, qui a fini par fuir, on va pas dire où, et qui a écrit un livre sorti en 2006, qui s'appelait lui La classe silencieuse. On fait une courte pause, c'est un extrait sonore, enfin, comment dire, c'est une musique extraite de la Chambre du Fils, voilà, chef-d'œuvre Palme d'Or à Cannes, film de Nanni Moretti dont nous parlerons après cet extrait.
Moro povero dove vivere, arrivederci amore, ciao, dei lupi sono la più in là.
Présence. Vivante Église. Emmanuel Pella.
Voilà, c'était une pause musicale express cette fois-ci. On n'arrête pas l'innovation sur Radio Présence. Alors, le deuxième film, La Chambre du Fils, Nanni Moretti, Palme d'Or au Festival de Cannes, sorti en 2001, primé, j'imagine, la même année. Oui, la même année. Comment vous présenteriez ce film, Louis-Marie Soler ?
Oh ben, c'est en quelques mots, c'est une famille aisée qui coule des jours tranquilles. Qui se rend même pas
heureux.
Compte, qui sont heureux. C'est parce que c'est naturel. Et tout ça va se briser avec la mort accidentelle du fils, un accident de plongée. Et alors, à ce moment-là, les remords vont poindre leur nez, si j'ose dire.
Pointer leur nez.
Et puis le couple aussi va se fissurer.
C'est peut-être un peu rapide, hein, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film, Louis-Marie ? Pourquoi La Chambre du Fils ?
Bien, c'est parce qu'à partir d'un sujet que j'ai balbutié, là, Nanni Moretti aurait pu faire quelque chose de larmoyant, un AV. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça parce que... Il n'y a pas de larmes faciles et tout. Il est de tous les plans pratiquement, Nanni Moretti, parce qu'il met en scène, il réalise le film et il joue le rôle du père. Et il est là, il montre les failles de cet homme qui veut rattraper une absence qu'il ne se pardonne pas pour son fils et pour sa femme aussi. Voilà, il y a tout ce chemin et la façon dont Moretti le montre qui rend ce film fort.
Voilà, d'une grande pudeur. Donc c'est un certain Giovanni qui est psychanalyste. Sa femme, j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait dans le film. J'ai l'impression qu'elle est galeriste, non, ou architecte. Enfin bref.
Elle est directrice d'édition littéraire.
Voilà. Et ils ont deux enfants, donc Irène et Andrea. Donc Irène étant l'aînée, Andrea le fils cadet. Voilà, bonheur nonchalant. Hein, tout est assez lent. En tout cas, Nanni Moretti marche à pas feutrés. Donc, bonheur nonchalant de cette famille qui vient se briser. Alors, je lis juste quelques, peut-être avant qu'on écoute un premier extrait, quelques critiques. Évidemment, toutes celles que j'ai trouvées sont très élogieuses. Le Nouvel Observateur, Moretti agrège les éléments du drame par la seule grâce de ce qu'on ne peut qu'appeler la mise en scène, un grand film. Le Parisien, Moretti parvient par une espèce de magie qui confie nos génies à nous bouleverser par la simplicité du traitement. Et le Journal du Dimanche, ennemi du moindre effet, Nanni Moretti ne verse jamais dans le pathos ni le sentimental, alors que l'émotion est toujours au bord des yeux, bouleversant sans être larmoyant. On va écouter donc un extrait, c'est au moment où le père, donc Giovanni, rentre d'une consultation. Il vient chercher son fils qui était censé être rentré avec un ami de la plongée. Et là, le film bascule.
Bonsoir, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qui se passe?
Votre fils a eu un accident en mer.
Andrea, qu'est-ce qui est arrivé?
Ils sont allés faire de la plongée et votre
qu'est-ce
fils...
Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Luciano, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va-t-il? Comment va Andrea? Comment va Andrea?
Personne, c'est un répondeur. Valerio, ici Giovanni. Je voulais te laisser un message. Je suis à l'hôpital et je voulais juste te dire que... Je voulais te laisser un message.
Voilà, fin un peu cut, pardon. C'est une scène, hein, quand on est parent. Alors j'imagine encore plus quand on a vécu ce type de drame qui est vraiment une série de scènes qui sont vraiment très 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 poignantes. Peut-être pour revenir sur ce qui avait été dit précédemment et lancer peut-être un peu la conversation. Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est qu'on est introduit de manière très simple en fait dans la vie d'une famille, et c'est difficile en fait de pas s'identifier. Quand on a probablement eu ce bonheur, c'est plus facile, hein. Mais voilà, on les voit faire la cuisine, lui sortir du travail, enfin, et du coup, à un moment, on est avec eux. Je ne sais pas si c'est l'un des traits de génie de cette mise en scène. Paul Dima.
Oui, c'est très très bien construit aussi dans la façon dont c'est introduit dans le scénario, c'est-à-dire que la mort du fils arrive à peu près à la moitié du film, c'est-à-dire que toute la première partie l'ambiance familiale, la qualité des relations, l'humour entre parents et enfants,
grande tendresse
leur initiative, grande ouais. tendresse, bon, un milieu à l'aise en même temps, bon, un père un petit peu, un psychanalyste avec plein de questions, mais avec de l'humour sur lui-même. Et puis cette scène-là qui se passe à l'hôpital sépare en deux le film, et ce qui s'est passé avant va retentir tout le long de la deuxième partie, c'est-à-dire que c'est après qu'on repense à l'avant, toute la vie des
On trucs. Fait mémoire avec eux, en fait, quelque part.
On fait mémoire avec eux, et là, on assiste au père psychanalyste qui ne peut plus dire un mot au téléphone au moment où il veut partager la nouvelle avec un de ses amis proches. Et ce qui est brutal à la fin, c'est que je veux te dire, et il raccroche le combiné parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut dire.
Voilà, et un psychanalyste qui est quelque part un peu condamné au silence, hein, c'est un peu ce que je disais en introduction, hein, ouais. Parce que c'est un homme qui n'arrive plus à trouver les mots pour parler au téléphone, pour écrire après, puisqu'il y a un rebondissement. Sa femme lui en fait le reproche, il n'arrive pas à exprimer sa douleur aussi, et tout ça fait, ce silence fait un nœud, un nœud terrible. Est-ce que le silence, ça vous a frappé l'un comme l'autre? Je ne sais pas, c'était le thème de mon introduction.
Effectivement, c'est cette incapacité dans laquelle va se retrouver cet homme qui vit un drame terrible et qui...
Parce que ça reste le personnage principal. Hein,
c'est... Oui, effectivement. Parce que Moretti, comme l'a dit Paul, bon, il y a clairement deux parties dans le film et il ne montre pas l'accident.
Non.
Parce que ça ne l'intéresse pas, en fait. C'est pas ce qui l'intéresse, pas de sensationnalisme. Il apprend la nouvelle, ça suffit. C'est terrible comme ça. Ce qui l'intéresse, c'est les remords de Giovanni. C'est ce qu'il porte et la difficulté qu'il a à les porter. Tout ce qui se reproche et tout ça, bah, il le vit, mais il n'arrive pas à l'exprimer.
La culpabilité aussi, c'est-à-dire que le père se rappelle tous les moments et il aurait dû...
Rappeler la circonstance peut-être aussi du drame, c'est...
Oui.
Je le rappelle, hein, c'est quand, donc il y a une scène familiale en fait, on imagine que c'est un dimanche, hein, je crois, donc c'est un déjeuner familial, voilà, dans cette... C'est-à-dire c'est presque ce bonheur insolent, même s'il est pas... Il est insolent probablement pour certains, en tout cas bonheur familial simple, et puis il a un coup de fil, c'est un patient qui l'appelle, qui lui demande de venir parce qu'il va très mal, il y va, je sais pas s'il y a beaucoup de psychanalystes qui se déplacent comme ça le dimanche, en tout cas c'est peut-être propre à l'Italie, bref, on sent ça toute sa générosité, mais il avait prévu d'aller courir avec son fils, et donc il fait le choix d'aller voir ce malade, et ben voilà, s'il avait fait un autre choix, ben c'est vrai que son fils ne serait pas allé faire de la plongée, et ils seraient allés courir ensemble, donc il est rongé par...
Par la culpabilité d'avoir répondu à l'appel de son client et d'avoir laissé son fils voilà, qui s'est noyé. Et après, on le revoit dans de nombreuses scènes faisant son travail de psychanalyste et dans la grande difficulté à faire son travail, justement, à écouter ce qui se dit parce qu'il est en permanence travaillé par ce manque, par sa responsabilité, par... voilà, donc c'est...
Alors, on voit une famille donc, qui essaye de faire son deuil. Voilà, il y a toutes les étapes du deuil. Je les ai reparcourues comme ça, peut-être pour préparer l'émission. Au début, le choc. Ouais. Il y a du déni. Et derrière, il y a la douleur, la culpabilité, la colère. C'est ce que disent les psychanalystes. Hein, donc, je le redis. La tristesse ensuite et la douleur, la dépression et ensuite la reconstruction. Et en fait, on a l'impression de les quitter au milieu de la douleur. Moi, j'ai senti qu'il y avait... comme par moments, comme quelque chose d'insurmontable, en fait, dans ce film, un deuil insurmontable. Est-ce que ça a été votre sentiment?
C'est ce à quoi on peut arriver à penser, mais ce n'est pas ce qui arrive, finalement. Parce qu'il y a un incident, le fait de la petite amie qui repasse, et...
Alors, expliquez peut-être en deux mots, c'est-à-dire qu'Andrea avait une amourette, et un jour, la mère... reçoit la lettre d'amour de cette jeune fille. Et donc, voilà, ça va être comme une manière de recoller...
Elle le découvre à ce moment-là.
Elle le découvre,
voilà. Elle le recouvre post-mortem, d'une certaine manière. Voilà.
Voilà.
Ils
vont rencontrer cette jeune fille, et cette jeune fille qui décide de partir.
Oui, avec un copain.
Avec un copain, voyager. Mmh. Hein, et bien, la mère et le père vont décider d'accompagner la jeune fille et son copain à la frontière italienne. Et c'est là où...
Française, oui.
Italo-française. Oui, c'est bon de le rappeler quand même. Mais ils vont faire un voyage en voiture avec eux. Et ce voyage va les conduire vers quelque chose, un certain apaisement, une paix peut-être.
Oui, laisser partir, envoyer les jeunes pour qui la vie continue. Et ils l'ont accompagné jusqu'à la frontière de là où ils pouvaient aller. Acceptant donc que cette jeune fille passe à autre chose, elle est amoureuse de leur fils, et puis maintenant elle part avec un copain, mais c'est eux qui choisissent de l'accompagner. C'est très beau.
Il y a un très beau plan à la fin.
Oui.
La mère.
Oui.
Et la mère, la mère promet, quand elle est lisse et belle et bleue, c'est calme, quoi.
Paul Dima, pourquoi est-ce que pour vous c'est un chef-d'œuvre ce film? Qu'est-ce qui traverse ce film qui fait que pour vous c'est un chef-d'œuvre?
Alors il y a le génie de Nanni Moretti qui fait une économie de mots, et alors encore plus grande une économie d'effets, mais pour pour montrer au plus juste, c'est-à-dire que les attitudes des personnages, les silences, sont une parole très très forte. C'est-à-dire que ça ne noie pas sous un déluge de mots, c'est des petits gestes du quotidien, c'est des gestes qui expriment le désarroi, qui expriment des fois la révolte, à un moment ils cassent, ils jettent des objets, et on voit que le couple qui s'aime est en train de plus arriver à communiquer non plus. Et ça passe par un espèce de cloisonnement entre eux, qui va se terminer vers un nouveau faire ensemble, hein, en conduisant cette jeune fille et son copain. Y a la sœur aussi qui est là. Alors la sœur qui est au début inconsolable, et puis la vie reprend. Et puis la vie reprend progressivement.
Alors on va écouter un deuxième extrait. De fait, moi, ce qui m'a en partie frappé dans ce film, c'est que ce psychanalyste, quelque part, on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup de choses. Il est très sûr de lui. Et là, il est comme complètement dépossédé de toute sa maîtrise et de lui-même. Et en fait, c'est quelque part, c'est la vie qui va venir le remettre debout, qui va venir le guérir. Enfin, du moins, c'est ce qu'on voit. Et entre autres, donc, une scène avec ce patient qu'il est allé visiter ce dimanche. Évidemment, ça devient difficile pour lui de continuer la psychanalyse jusqu'au jour où ce patient vient le voir pour la dernière fois.
Aujourd'hui, je m'assieds ici.
Oui.
Comment ça va? Et votre famille?
Comment va ma famille? Mais oui, comment va ma famille? Ça fait un an et demi que vous venez ici. Vous m'avez parlé de quelques 200 livres, vous me parlez de musique, de football, de spectacle. Pourquoi vous détournez toujours la conversation? Hein? Pourquoi vous voulez toujours éviter vos problèmes?
Non, c'est pas du tout ce que je fais.
Non?
Non, ces dernières semaines en tout cas, non. Aujourd'hui, je voulais juste qu'on bavarde parce que je me suis attaché à vous. Oui, je regrette, mais c'est la dernière fois que je viens vous voir.
C'est la dernière fois que vous venez me voir. N'allez pas vous croire original, surtout. Il y a toujours une phase où le patient annonce « je ne viendrai plus ». C'est la dernière fois, de toute façon, ça sert à rien.
Non.
Toujours.
À moi, ça m'a servi. Ça m'a servi. Mais la maladie a changé beaucoup de choses. Je dois guérir. Je dois concentrer toute mon énergie là-dessus. Je ne voulais même pas venir. Je voulais vous téléphoner ou vous écrire. Mais après, j'ai pensé que ça serait mieux de vous saluer en personne et de vous dire merci pour tout.
Bon courage.
Voilà, pardon, c'est un peu cut, décidément, ce soir. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez commenter. Moi, en tout cas, je prolongerai le commentaire précédent. Il y a une scène aussi, parce que la sœur demande une messe. Et on peut dire que l'Église en prend pour son grade, puisque le prêtre a un prêche qui est plus que malheureux, d'une maladresse, on va dire, crasse, citant l'Évangile en disant « on ne sait ni le jour ni l'heure, on ne sait pas quand le voleur viendra, bref, les parents rentrent ». Ils ne sont pas spécialement... chrétien, enfin croyant, et donc la vie ne vient pas de ce côté-là. La vie, en l'occurrence, elle vient, j'allais dire, de la vie, quoi, hein, du courage de la sœur, de la rencontre de cette jeune femme. Voilà, qu'est-ce que vous diriez sur cette vie plus forte que la mort? Est-ce que ça se sent malgré tout, Paul Dima?
Ah oui, très très fort, mais de façon subtile, c'est-à-dire c'est pas une démonstration non plus, ni une thèse, encore moins une thèse. C'est comme on a eu le temps de les voir vivre avant le drame. On les voit aussi, on voit la cellule familiale un peu s'atomiser, exploser, ou avoir au moins des difficultés à refaire des choses ensemble, et puis progressivement ça revient et on voit que quelque chose doucement se reconstruit. Et c'est dans ce doucement que quelque chose est dit.
C'est le ton du film. Ouais. C'est le ton, le parti pris de Nanni Moretti, c'est de tout raconter de la même façon, que ce soit le bonheur ou le drame ou la reconstruction. Tout est comme ça. On a dit à propos de ce bonheur qu'il était, qu'il s'en rendait pas compte, simple. Le drame est terrible et la reconstruction, elle vient de la même façon, petit à petit, par des mots, des tous, même le drame, de temps en temps, c'est un sanglot, c'est montré avec beaucoup, beaucoup de pudeur.
Voilà, la poésie de la vie, on va dire, j'avais cité déjà cette expression, la grave allégresse de la vie, c'est qu'en tout cas, peut-être comme ça qu'on peut qualifier ce film.
Montre que la vie peut être bouleversante et sans pathos, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'en rajouter.
On va faire une deuxième pause, cette fois ce n'est pas un extrait du film dont nous allons parler après, le chef-d'œuvre spirituel de ce mois-ci, l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, c'est donc le thème de l'émission de ce jour, émission cinéma du mois, avec, par hasard, si vous nous prenez en cours de route, donc Paul Dima, co-responsable de Ciné-Parole, ce ciné-club avec le cinéma L'ABC à Toulouse, animateur de retraite, entre autres, pour les Coteaux Païs, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, sur cette même antenne, le mercredi à
19h.
C'était pour voir si vous étiez bien réveillé.
Je suis attentif. C'est le matin, je suis attentif, j'ai pris mon café.
Alors, dernier film, donc chef-d'œuvre spirituel. On avait parlé de Jésus de Nazareth de Zeffirelli. Cette fois, c'est l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Voilà, un très beau film, c'est vrai. Moi, je ne l'avais pas vu, mais grâce à vous, je l'ai vu. Sorti en 1964. Comment je l'introduirais, après je vais vous donner la parole, Louis-Marie. On imagine que c'est toujours un défi que de faire un film sur Jésus. Là, il y a un parti pris assez important. C'est un Jésus, on va dire, à l'image de sa parole, en tout cas d'une partie de ce qui est dit dans les évangiles. C'est un Jésus tranchant, c'est un Jésus combatif.
C'est-à-dire que Pasolini a pris le parti d'utiliser que des comédiens non professionnels. Il a voulu venir à l'origine. Il a voulu se soustraire à tout le clinquant en ne prenant aucune vedette. Jusqu'à présent, tout ce qu'on avait fait sur les écrits sacrés, c'était, on se souvient, de grandes productions hollywoodiennes.
C'était le cas, en tout cas, de Jésus de Nazareth. Hein, ouais, vous aviez dit que c'était la course au casting.
Exactement. Et puis il y avait les grandes productions hollywoodiennes, les 10 commandements, tous ces films qui embrasse Ben Hur. Ça pétarade, c'est clinquant, il y a des couleurs, sont de beaux films au demeurant, la question n'est pas là, mais lui ce qui l'intéressait c'est de mettre en scène cette histoire. Il voulait montrer cette histoire. Donc et pour la montrer...
C'est simple et puré, c'est ça ?
Exactement. Il fallait ces acteurs-là. Et il a demandé à sa mère d'interpréter le rôle de Marie. C'est la mère de Pasolini qui interprète le rôle de la Sainte Vierge.
Donc, grand prix de l'Office catholique du cinéma quand il est sorti, prix de l'Union internationale de la critique, etc. etc. Voilà, j'ai vu que c'était un film aussi qui était dédié au début au glorieux pape Jean XXIII. Sorti en 1964, ça veut dire que le pape était décédé. Déjà, hein, puisque c'était déjà Paul VI. Qu'est-ce que vous diriez d'autre en introduction quand je disais que c'est, il insiste beaucoup sur la parole de Jésus et sur ses admonestations à l'adresse des pharisiens. Il y a beaucoup de scènes en fait où on voit un Jésus. On comprend pourquoi quelque part il s'est fait condamner à mort. Hein, c'est...
Alors, Pasolini était communiste, athée, un peu. Contrarié parce que athée, mais très proche de l'évangile en même temps, c'est-à-dire que ce Jésus l'impressionnait. Alors il faut savoir que Pasolini a eu aussi des ennuis avec la justice italienne parce que être homosexuel à l'époque, c'était...
Parce que donc il était homosexuel.
Il était homosexuel et c'était un délit. Et il était proche de Jean XXIII. Jean XXIII qui était intervenu pour... par rapport à une attitude autre vis-à-vis des homosexuels. Et alors, quand il a eu le projet de faire un film sur Jésus, il en a surpris plus d'un. Et pas sur Jésus, selon saint Matthieu. C'est-à-dire qu'il se réfère au plus près au texte d'un évangile. Il ne fait pas une histoire de Jésus, il met en scène la parole un peu brute et rugueuse de Matthieu. Et ce n'est pas par hasard s'il a choisi Matthieu. Dans son rôle de remise en cause du système des prêtres, de l'enfermement religieux, etc., au profit de la vérité native de la parole de ce Jésus. Et alors, il sort aussi complètement des représentations attendues d'un Jésus à la barbe longue, aux yeux bleus. D'ailleurs, c'est en noir et blanc.
Il est quand même parfois très bien coiffé, hein ? Enfin, je dis ça, excusez-moi.
Oui, mais mal rasé.
Comme Bouddha, parce que pour Jésus de Nazareth de Zeffirelli, j'avais entendu ça, que c'était horripilant pour certains, parce que Jésus était tout le temps bien coiffé. Et là, c'est vrai que parfois, il est quand même très bien coiffé.
Oui, c'est un monsieur qui est beau. C'est un homme.
Comment vous décririez son visage, peut-être
C'est tourné aussi dans les décors de... Dépouille, je crois.
Italie
du Sud, un peu sur fond de ruines ou de monde, en destruction un petit peu. Et là, ce prophète Jésus, cet homme prophétique, traverse ces régions-là, suivi de sa bande de disciples et de femmes qui sont très présentes aussi dans la mise en image. Alors, on voit que par le choix du noir et blanc, du décor, des personnages qui ne sont pas des artistes reconnus, il y a une volonté de traiter très différemment les récits évangéliques ou les récits sacrés au cinéma.
Donc, l'acteur, celui qui joue Jésus, c'est Enrique Irazoqui. Si j'ai bien compris, c'était un simple étudiant qui a été sélectionné...
Catalan,
au fur et à mesure des castings. Il a la tête du Catalan. Je ne sais pas si tous les Catalans ont ce visage, mais en tout cas, les sourcils un peu froncés qui se rejoignent. Voilà, il a un regard extrêmement déterminé, un regard profond, assez énigmatique. Peut-être on va écouter un extrait. Alors, en l'occurrence, c'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste au désert. Jean-Baptiste qui... Moi, ce que j'ai trouvé assez beau, c'est que tout le monde n'est pas à son avantage dans ce film. Hein. Parfois, on voudrait que Jésus soit à tout prix magnifique, les apôtres très beaux, etc. Jean-Baptiste, voilà, c'est un homme... c'est quelconque quelque part, hein, mais avec une parole qui n'est pas sans poser de questions à l'époque. Et même dans le film, on se demande s'il n'est pas un peu fou. Voilà, un homme simple aux paroles un peu folles, extrait donc peut-être de la radicalité du discours qui est restitué, de la parole qui est restituée dans ce film. Voilà, avec cet extrait.
I am all sauvegarder votre salut, car proche de vous tous, est le royaume des cieux. Lequel d'entre vous ignore encore aujourd'hui ce que fut la prédiction du grand prophète Isaïe? Que vous annonçait-elle donc, cette voix, ce cri qui dans le désert s'est fait entendre? Préparez sans retard la route du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Race de serpent de vipère! Qui vous a donc suggéré de chercher à vous soustraire à la colère imminente? Ne donnez que des fruits qui soient dignes de la conversion. Et ne vous avisez surtout pas de dire en vous-même, nous sommes tous fils d'Abraham. Puisque les pierres que voici, Dieu peut, s'il le veut aussitôt, faire naître des enfants à Abraham. Voilà que déjà la cognée est à la racine de chaque arbre. Tout arbre qui ne portera pas de beaux fruits sera arraché. Et il sera tout aussitôt jeté dans la fournaise. Je vous baptise en ce jour dans l'eau du Jourdain en signe de pénitence. Maintenant, je sais que celui qui viendra tout de suite après moi est d'une plus grande puissance que moi. Car de celui-ci, sachez-le, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle avanée. Et il s'emploiera à nettoyer sans perdre de temps son air. Il aura soin de ne recueillir en sa grange que les grains qu'il aura triés. Mais la balle, il la brûlera dans la fournaise, celle qui est inextinguible.
Cet extrait de Jean-Baptiste au désert, donc une parole, forte. C'est aussi l'un des avantages de ces films, c'est que ça nous aide à nous plonger dans les écritures. Voilà, chacun avec probablement son angle, son parti pris, mais ça a toujours ce bénéfice de rendre réel ce qui ne peut paraître être qu'une parole. Paul Dima, qu'est-ce qui vous a... Oui, je voulais vous demander un commentaire sur les musiques, parce que là, on entend du gospel. Il y a une autre scène absolument magnifique, la scène de la nativité, où ces rois mages qui ont vraiment des gueules, très, très belles, très touchantes, des rois mages humbles. C'est une nativité dans le sud de l'Italie avec une musique de gospel.
Ça, c'est aussi le génie de Pasolini, qui avait une culture et poétique et musicale très, très, très forte. Dans ce film, il fait appel à des musiciens très différents, je vais citer, Prokofiev, Mozart, des chants négro-spiritual, des chants congolais aussi, africains, et puis bien sûr, au moment de la Passion du Christ, c'est la Passion selon saint Matthieu de Bach. Pourquoi ce choix-là? Derrière le côté qu'on pourrait dire un petit peu frustre des personnages qu'on voit, rugueux, enfin sans apprêt, sans... on sent qu'il y a tout un travail symbolique qui donne de l'épaisseur à ces personnages. Parce que du côté de la parole, c'est aussi textuellement... l'évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire qu'il ne le transforme pas en dialogue, en scénario, parlé, etc. Très peu souvent.
D'ailleurs, les disciples ne parlent jamais.
Non, les disciples ne parlent pas.
On voit juste l'expression de leur visage.
Voilà.
Sauf Pierre, peut-être, un ou deux moments.
Oui, mais parce qu'il est cité à ce moment-là dans l'évangile de Matthieu. Et cette épure, je dirais, est nourrie aussi de tout cet apport d'artistes. Musiciens qui ont fait écho à la parole de Dieu dans des cultures différentes, le négro spiritual qui est le chant des esclaves noirs qui voient dans le Christ leur libérateur, Bach qui chante la gloire de Dieu avec toute la magnificence de la composition de Bach et de la tradition protestante, mais il y a aussi de la musique congolaise, il y a Mozart, il y a Prokofiev. Enfin, je veux dire que rien n'est trop grand pour dire son admiration du Christ et de la voix qu'il a semée sur terre.
Est-ce qu'il y a d'autres scènes qui vous ont frappé? On en a choisi une autre, mais je ne sais pas, qui vous ont aidé l'un ou l'autre, peut-être à voir les évangiles autrement, ou à les scènes qui vous auraient frappé ou qui vous ont touché.
Il y a une scène que j'ai souvent passée à des catéchistes ou même au cours de retraite, la scène de la nativité, où on voit la Vierge qui est au fond d'un petit vallon. Et puis on voit les mages arriver, ils sont passés avant au palais magnifique d'Hérode, mais avec tous les visages fermés et tout ça. Et puis là, ils descendent sur fond de Negro Spiritual, au plus bas, le Christ est dans les bras de sa mère qui est assise, qui regarde intrigué ses visiteurs qui arrivent.
Qui ne parle
pas. Et je dirais, c'est l'incarnation au plus bas de terre. Voilà, il est descendu au plus ras de terre qu'on puisse faire. Et il n'y a pas de parole. Et les mages viennent s'agenouiller. Ils offrent leur présent, mais de façon quasi liturgique. On n'est pas dans l'imitation de... Ce n'est pas du reportage. Et seuls les enfants sourient. Ils comprennent ce qui se passe. Et ça, c'est magnifique.
Et dans cette scène, moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que Marie tient au début le bébé contre elle. Oui. Elle contemple ce qui se passe. On a l'impression qu'elle comprend quelque part le mystère qui est en train de... où elle entrevoit le mystère qui est en train de se vivre, et du coup, elle donne l'enfant.
Elle donne l'enfant.
Elle donne l'enfant, ce qui, pour une mère voilà, oui, qui vient d'accoucher, est un symbole extrêmement fort.
Le mage
fort,
prend l'enfant et le monte vers le ciel. C'est superbe.
Alors moi, il y a une autre scène qui m'a frappé. C'est le seul moment où Jésus sourit dans le film. C'est quand il arrive au temple de Jérusalem. Il monte, il annonce à ses disciples qu'il va vivre sa passion. On voit que les disciples ne comprennent pas grand-chose. Et puis, il arrive au temple, et là, il y a plein d'enfants. Et qui lui disent Hosanna, qui rient aux éclats, etc. Et c'est le seul moment où on voit Jésus dans ce film sourire. Voilà, j'ai trouvé que c'était très beau d'entrevoir quelque part le cœur qu'il y a derrière ces paroles de feu qui pétaradent un peu quand même au long du film.
Mais en même temps, Pasolini a voulu mettre en valeur ce qui est dit dans l'Évangile, c'est les enfants. Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et les enfants, intuitivement... comprennent ce qui se joue là, et les adultes et les apôtres beaucoup plus difficilement.
Oui, pardon.
Moi, je trouve la force, les scènes que vous venez d'écrire sont évidemment celles qui marquent le plus, mais la force de Pasolini, c'est justement parce que probablement il était athée, qu'il évite toutes les schématisations, et c'est pour ça que le film est grand, parce que il se tient aux écrits de saint Matthieu. Et il n'en démord pas, et il a été capable de diriger aussi ses acteurs qui n'en étaient pas pour produire un film comme celui-là. C'est suffisamment rare, c'est pas toujours le cas, un film réussi avec des gens qui ne sont pas acteurs au départ.
Ouais, ça se voit pas, en tout cas, on voit qu'il y a des visages d'une expressivité, d'un naturel confondant, mais ça ne se voit pas. Je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait. C'est Jésus qui est au désert. Alors c'est pour le dialogue, mais aussi peut-être pour commentaire de la manière dont tout cela est filmé. Donc Jésus qui part 40 jours au désert et qui est tenté par Satan.
Si tu es le Fils de Dieu, alors fais que ces cailloux deviennent du pain. Ce n'est pas de pain seulement que vit l'homme, mais aussi de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Si c'est toi qui es le Fils de Dieu, alors jette-toi d'ici, car il est écrit aussi, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne butes du pied contre une pierre. Il est écrit par contre, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Vois, c'est tout cela que je te donnerai si tu t'agenouilles et m'adores en ce jour. Va-t'en, Satan, parce qu'il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu ne rendras de culte qu'à lui seul.
Donc cette scène, s'il faut la décrire, c'est au désert, évidemment. On voit un homme qui marche au loin, qui descend d'une espèce de dune, donc qui a un grand manteau, donc ça fait comme de la... le sable fait comme de la fumée. Et c'est un Satan assez déroutant, on va dire, c'est un visage grossier. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, je ne sais pas si c'est fait à dessein ou s'il en a parlé, c'est son regard est vide, en fait. Il n'y a pas de haine, mais il y a juste du vide. Est-ce que ça vous a frappé, Paul ?
Oui, et c'est une façon intéressante de traiter le Satan, c'est-à-dire qu'il a un visage qui n'est pas un visage. En même temps, c'est un regard qui ne regarde pas. Vous disiez vide, oui, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, et ça met en valeur aussi. Alors, le doublage son en français ne rend pas la tonalité du son originel du film.
Là, sans le support de l'image, on n'est pas emporté comme on l'est quand on est devant le film.
On fait ce qu'on peut. Hein.
Non, mais c'est pas un reproche, Emmanuel. C'est-à-dire que c'est
le un reproche auprès des auditeurs, parce qu'ils ne parlaient pas italien. En fait.
Non, c'est pas ça non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est le doublage de l'époque. Ouais. Et les acteurs de doublage étaient les mêmes pour tous les films. C'est-à-dire que c'est les mêmes voix qu'on entendait dans les productions américaines. Donc on a ces voix en tête et... il se trouve que je les reconnais, bon, mais ça, c'est un peu troublant. Néanmoins, ça note pas à la qualité du film, aucunement.
Ouais. Pour finir, en un mot, pourquoi un chef-d'œuvre ? Allez, Paul, le mot de la fin, vous l'avez dit, mais peut-être si vous vouliez conclure.
Un chef-d'œuvre parce qu'il invite à quitter nos idoles. C'est-à-dire qu'il n'a pas été très bien reçu par les chrétiens en France, ce film. Parce qu'ils déplaçaient trop leur représentation habituelle de Jésus. Ils disaient, mais non, mais c'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. Et c'est intéressant, parce qu'il nous oblige à faire un travail, mais il est comment pour toi ? Voilà. Et celui-là, est-ce qu'il vient interroger tes représentations, ton Jésus à toi, ou le Jésus selon saint Matthieu ?
Belle manière de conclure. Ciné-parole, donc c'est le rendez-vous, c'est pas l'évangile selon saint Matthieu, c'est donc la révolution silencieuse de Lars Krohm, le 5 juin prochain, deux séances à 14h30 et 20h30. Allez-y, voyez comme ils sont sympathiques et ils vous feront très bon accueil donc au cinéma l'ABC à Toulouse, 13 rue Saint-Bernard. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église encore ce matin. Et merci à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Merci pour sa patience. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.